With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
On va parler du Samsung Galaxy Fold 4 et Flip 4, de l'Ethereum qui fait enfin son passage au Proof of Stake et du marché des puces qui va enfin connaître la fin de la pénurie potentiellement. C'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja et je suis extrêmement heureux de vous retrouver à la fin de ces vacances. Enfin, pour moi, c'est la fin des vacances. Vous êtes peut-être encore sous les cocotiers, c'est ce que j'espère. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, on est là pour vous accompagner dans une nouvelle semaine pleine de sérieux. Vous êtes peut-être en train de faire les courses, peut-être en train de faire le ménage, en train de faire du sport. Bon, il fait un peu chaud pour faire du sport peut-être en ce moment. Mais dans tous les cas, on est là dans vos oreilles de retour. Et on ne va pas s'arrêter de sitôt. On a un programme qui est plutôt intéressant. Il n'y a pas d'énormes sujets, mais plein de petits sujets qui sont vraiment, vraiment sur lesquels moi, j'ai des petites choses à dire en tout cas. Je voudrais, avant de me lancer dans les présentations du co-animateur formidable qui m'accompagne aujourd'hui, remercier Guillaume qui a fait l'émission de la semaine dernière et qui m'a permis de passer une semaine de vacances incroyable avec ma femme, seule à Paris, enfin seule. Seul parce qu'il n'y avait pas les enfants et seul parce qu'il n'y avait pas les Parisiens non plus. Et ça, c'était le meilleur aspect de ces vacances à Paris sans les Parisiens au mois d'août. Les vrais Parisiens savent que c'est ça, le bonheur. Bon, en contrepartie, tous les magasins, les restaurants, les bons restaurants où on voulait aller étaient fermés. Mais ce n'est pas grave, on s'en est accommodé. Et je tiens aussi à remercier du plus profond du cœur les trois personnes qui m'ont reconnu et qui sont venues me dire bonjour pendant cette semaine. Je fais des podcasts, moi. Vous ne voyez pas vraiment mon visage, hein, a priori, la plupart des auditeurs, à moins que vous suiviez les émissions live sur Twitch, hein, donc tous les mardis midi, évidemment, mais la plupart des gens ne connaissent pas mon visage. Et malgré tout, il y a des gens qui m'ont reconnu. J'ai été, franchement, à la fois ému. Et puis, ça donne un petit peu de confiance en soi quand même, parce que le fait de se faire reconnaître, c'est un peu la fierté. Et puis, il y avait ma femme à côté, donc c'était genre « Ah ouais, non, mais bien sûr, bah, pas de photos, les paparazzi, c'est bon, c'est bon. » Mais c'était vraiment cool. Et en particulier, je remercie Pierrick d'être venu me dire bonjour. J'ai retenu le prénom de Pierrick parce que tous les auditeurs sont des gens formidables. Tous les auditeurs, évidemment, sont des gens bien. Mais Pierrick, on était dans une queue et je l'ai remarqué avant même qu'il ne me dise bonjour parce que ses amis lui proposaient de couper la queue parce qu'ils étaient arrivés avant. Et lui, il a dit non, c'est bon, je vais faire la queue normalement. Donc, je me suis dit, avant même qu'il me dise bonjour, je me suis dit, ah, mais voilà quelqu'un de formidable. Et du coup, ensuite, il m'a dit, ah, bonjour, c'est toi, Patrick, du Rendez-vous Tech. Et donc, c'était une sorte de destinée. Et ça m'a prouvé encore une fois que vous êtes tous et toutes des gens merveilleux et que j'ai bien de la chance de vous avoir comme auditeur et auditrice. Et d'ailleurs, je remercie les patriotes qui ont rejoint l'émission, Héloïs Perotto et Bruno. Merci à vous deux qui êtes devenus patriotes de l'émission. Et bien sûr, merci à Léthargique Panda et Eric Blanquet, les producteurs de cette émission spécifiquement. Vous me donnez beaucoup de force tous et c'est nécessaire parce que je suis revenu en Finlande et les enfants sont malades et j'ai dormi 4 heures. Mais bon, on est The Show Must Go On, l'émission est pleine d'énergie malgré tout, et d'autant plus pleine d'énergie que l'incroyable Benoît Curdy est avec nous aujourd'hui pour cet épisode. Bonjour Benoît, comment vas-tu ?
Salut Patrick, en pleine forme, hyper content d'être là, et tu sais quand tu dors pas, ça te donne ce petit grain de voix, un tout petit peu plus bas, un tout petit peu rocailleux, je trouve que ça va très très bien. Déjà tu as une excellente voix, ça on le sait, mais là ça rajoute un petit truc en plus, donc très très bien, je sens que ça va être une bonne émission.
Super, tu me disais avant l'enregistrement que j'étais pas un fair weather friend, je suis pas là que quand tout va bien, je suis là tout le temps pour accompagner les gens. Et je suis très heureux de t'avoir aussi dans l'émission avec cette voix qui, comment dire, c'est un petit peu la voix de chanteur de jazz qui a trop fumé et trop bu, c'est ça ? Pas tout à fait, mais...
Ouais, mais quelque chose, dans la famille, c'est sûr.
Très bien. Eh bien, écoutez, on va se lancer du coup dans l'émission avec le premier sujet qui est les Samsung Galaxy Fold 4 et Flip 4, donc les quatrièmes versions des téléphones pliables de Samsung, qui sont un petit peu, comment dire, j'ai beaucoup réfléchi à comment j'allais traiter la chose dans l'émission et je suis un petit peu embarrassé parce que les nouveaux modèles sont tellement proches des anciens qu'on dirait presque un nouveau modèle d'iPhone par rapport à celui de l'année précédente, et une année où ça ne change pas trop, quoi. Et généralement, on épluche les iPhones et les caractéristiques et tout ça. Et là, je pense que ce n'est pas hyper approprié de partir dans tous les détails de toutes les performances et les caractéristiques techniques. Et du coup, je pense que certains vont me reprocher de ne pas en parler trop. Mais c'est vrai que là, ils sont très similaires aux modèles précédents. Et d'une certaine manière, c'est une chose qui est vraiment intéressante aussi parce qu'on est dans l'affinage et on a vraiment des modèles qui sont... je crois que quand ils ont lancé il y a 4 ans les premiers modèles, 3 ans et demi, 4 ans, on imaginait ce type d'appareil comme une version vraiment aboutie du concept qu'ils avaient présenté. Donc, on a vraiment un aboutissement et c'est ce que je ressens, moi, avec les détails de ces nouvelles versions, les versions 4. C'est-à-dire que on est tellement dans une formule qui est aboutie et qui fonctionne pour ce qu'ils veulent faire qu'on n'a pas d'énormes changements. Donc, c'est presque une confirmation que les appareils sont bons que de voir à quel point ils ne changent pas, en quelque sorte. Juste pour rappeler très rapidement, et puis je te laisse la parole, bien sûr, Benoît, les deux téléphones pliables de Samsung, c'est vraiment les flagships les plus connus des appareils pliables. Il y a d'une part le Fold, qui est une sorte de, on va dire, tablette qui se plie au milieu. Il y a une pliure verticale qui fait qu'il se plie pour faire la taille, la surface d'un téléphone classique. Et puis, il y a le Flip, qui est un téléphone de taille classique qui se plie au milieu de manière horizontale pour devenir un tout petit téléphone. C'est presque un téléphone à clapet et qui, du coup, devient un téléphone de taille beaucoup plus réduite. Le Fold, donc, qui est le plus grand, qui est plutôt pour la productivité, on va dire, comme ça qu'il est marketé, a aussi un écran sur la face quand il est fermé. Et c'est un écran qui est maintenant d'une taille vraiment imposante. Donc, c'est un vrai écran complet. Et le Flip a un petit écran, quand il est plié, qui permet d'avoir des notifications, de faire quelques petites choses, même de prendre des selfies. Et cet écran-là, l'écran du Flip, a encore été agrandi par rapport au modèle précédent. Donc là, on commence vraiment... Alors évidemment, ce n'est pas un écran de téléphone pleine page, on va dire. C'est un petit écran qui fait la taille de deux doigts, mais ça permet quand même de faire pas mal de choses. Donc, évidemment, ils ont des processeurs plus puissants, des écrans qui consomment moins de batterie, une batterie qui tient plus longtemps, etc. etc. Et puis un design un petit peu plus carré, un petit peu moins arrondi. Mais en gros, on est vraiment comparable au Galaxy Fold 3 et au Flip 3, qui d'ailleurs restent dans la gamme de Samsung et qui restent des options tout à fait envisageables si on veut un appareil pliable. Du coup, je me tourne vers Benoît, je me tourne vers la Suisse, je me tourne vers Lausanne. Que pense-t-on de ces téléphones dans la maison Kurdi ?
Alors, à Lausanne, c'est depuis l'annonce, c'est l'émeute. Hein, les forces de l'ordre sont dehors. Non, j'ai écouté l'excellente analyse de Jérôme Kainborg sur ce produit, le Galaxy Flip et Fold. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, en particulier sur un point, c'est que peut-être la meilleure façon de regarder ce nouveau produit, en particulier le Flip, hein, c'est de le voir vraiment comme un accessoire de mode. Et c'est vrai que on s'en fiche un peu des spécificités techniques. Alors de nouveau, pardon à ceux et celles que ça offense, mais je suis d'accord avec toi. J'ai même pas envie de savoir, en fait. Il est bien, il est bon, il fait le job, c'est bien.
On sait qu'ils ont des processeurs largement assez puissants pour tenir tout ce que vous leur lancez comme les meilleurs téléphones du marché. Et à partir de là, on sait tout ce qu'on doit savoir, quoi.
Exactement. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils font aussi un pas vers la personnalisation de masse. Alors, c'est pas vraiment exactement tout comme on peut le personnaliser à outrance, mais on peut quand même choisir plusieurs couleurs soi-même pour le devant et le derrière. Et ça, c'était quand même une des grandes promesses qu'on n'a pas encore eues de l'industrie 4.0, comme on dit, hein, de pouvoir personnaliser en masse les produits. Je trouve intéressant qu'il y ait un pas dans cette direction, qu'on le voit comme un accessoire de mode. Et puis, le Fold, c'est vrai, je sais pas. Sincèrement, si vous en avez un, si vous êtes cette personne qui en achète un, laissez un commentaire parce que je suis curieux à qui ça sert. Je comprends que ça existe, mais ça me semble tellement spécifique d'avoir besoin d'une tablette, mais en même temps qu'on puisse plier parce que ça ne doit pas être trop grand. Et en même temps, bref, je vois
plus
pas
le,
bien...
C'est plus le fold que le flip qui t'interroge sur l'utilité. Le flip, tu le vois plus, c'est ça?
Le flip, je comprends complètement. Nous, on est assez vieux, toi et moi, pour avoir vécu l'époque des fameux Motorola, comment ça s'appelait, les Razer.
Oui, tout à fait.
C'était l'émeute. Moi, je l'ai adoré. Tout le monde l'a adoré. Et donc, je comprends les gens qui ont le même âge qu'on avait à l'époque. Je comprends qu'ils l'adorent. Et justement, avec ce côté un peu mode, un peu sympa, un peu léger. Alors, il est cher, mais comme toujours le téléphone, c'est pas un truc qu'on peut perdre sans y penser. Donc, ça reste un petit peu ce positionnement quand même un peu luxe, mais qui va bien avec le côté mode. Donc, je comprends vraiment l'attrait et je suis curieux de voir comment ça va. Parce que l'autre tendance, sur moi, quand je vois ça, je vois les deux tendances. Je vois la personnalisation de masse, l'industrie 4.0. Et puis, l'autre truc, c'est la robotique pliable. Et je suis curieux de voir, parce que Samsung fait ça à l'échelle, qu'est-ce que ça va permettre d'autres dans d'autres domaines parce qu'évidemment, on voudra de plus en plus avoir des choses qui puissent se déformer plutôt que d'être complètement rigides. Donc, il y a quand même beaucoup de choses intéressantes et Samsung délivre. Franchement, ils ont l'air d'avoir une belle part de marché. J'ai regardé les stats de ces téléphones pliables 2020 de produits, hein, pas d'acheter. Donc, il faudra juste être prudent. Ils risquent d'avoir un delta. 2 millions, je crois que c'était 8 millions en 2021. Ils attendent 16 millions en 2022. Alors, par rapport à l'échelle de tous les téléphones, ça reste pas énorme. Oui. Mais quand même, en termes de croissance, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et de nouveau, c'est les jeunes qui l'ont, donc voilà, ça risque de durer.
Ouais, et effectivement, je crois que le public est sur la même ligne que toi parce qu'ils vendent beaucoup plus de flip que de fold. Bon, il est moins cher, hein. On est tout de même sur des téléphones qui sont au-dessus de 1000 euros et parfois le 2000 euros dans le cas du fold. Mais clairement, le flip se vend, je crois, représente 80% des ventes des téléphones pliables de Samsung. Donc oui, on est sur un modèle qui séduit plus que son camarade. Effectivement, la croissance est là, ce qui veut dire que d'ici 4-5 ans, Apple en sortira un aussi, téléphone pliable peut-être. Mais c'est intéressant de voir qu'on est un petit peu à la frontière. Bon, c'est clairement du mass market là, mais on est à la frontière presque entre la recherche pour les technologies pliables, qui ne sont pas que les technologies matérielles, mais ils affinent le logiciel également dans l'utilisation de ces appareils. Et donc, on est entre la recherche et le produit vraiment consommateur, même si, bon, c'est ce genre de chiffres, quand on commence à dépasser les quelques millions, on met l'astérisque, c'est pas trop, c'est encore de la recherche que pour des boîtes d'une taille, d'une ampleur comme celle de Samsung, quoi. Pour n'importe quel autre fabricant, ça serait un vrai marché important.
Le seul autre qui en est capable, c'est Huawei, hein, de ce que j'ai vu, ce qui est peut-être pas le genre de téléphone qu'on veut acheter maintenant, c'est qu'il y a quand même assez peu qui arrivent à se lancer dedans. De nouveau, en termes de différenciation et en termes d'accès au marché, c'est intéressant parce que pour un fabricant de téléphone, en particulier sous Android, comment est-ce qu'on est sûr qu'il n'y ait pas une concurrence trop acharnée? Ça, je trouve aussi, c'est assez intéressant à ce niveau-là. C'est pas un truc qu'on va pouvoir produire à 100 $, etc. Donc, il y a quand même beaucoup d'aspects intéressants. Ouais. Exact, ouais. Oui. Ça change,
Peut-être que d'ici 4-5 ans, on commencera à les voir arriver, peut-être pas d'aussi bonne qualité, etc. Mais ça risque... Je pense que là, ça fait 4 ans que le premier Fold est sorti, presque. On risque de commencer à les voir arriver ailleurs. Bon, la question de l'utilité reste peut-être un tout petit peu posée encore. Mais si ça continue sur cette voie, peut-être qu'on verra d'autres fabricants acheter des... propres écrans à Samsung et faire leurs propres appareils. Un autre sujet extrêmement important, c'est le passage au proof of stake de la blockchain Ethereum. Et là, c'est plutôt, on a souvent l'habitude de parler de choses un petit peu négatives ou préoccupantes quand on parle de blockchain et de crypto. Là, je pense que c'est unanimement, c'est difficile de considérer ça comme une mauvaise nouvelle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Certains d'entre vous le savent certainement, mais les blockchains et le minage de crypto-monnaies fonctionnent aujourd'hui intégralement ou en immense partie avec un processus qui s'appelle le proof of work. C'est-à-dire que pour avoir le droit de miner un, je schématise, hein, mais d'obtenir un nouveau élément de crypto-monnaie, un nouveau bitcoin par exemple, ou, il faut fournir un travail informatique et donc des calculs mathématiques et informatiques importants et ça permet donc de, d'enregistrer une opération dans la blockchain et ça attribue pour récompenser de son travail à une personne qui a fait cette opération un Bitcoin et ou alors un Ether sur Ethereum, etc. Et le principe, c'est qu'il faut faire des calculs de plus en plus complexes. Donc, ça demande de plus en plus de puissance informatique. Et c'est pour ça qu'on critique énormément les blockchains et les crypto-monnaies en disant qu'elles sont extrêmement énergivores. Et c'est évidemment le cas. On arrive à des quantités d'énergie dévorées absolument hallucinantes. Qui sont l'équivalent d'une ville ou plus que certains pays même pour l'ensemble de la blockchain, pour l'ensemble des blockchains. Et il y a depuis des années des gens qui cherchent des solutions à ça. La solution préférée, c'est le proof of stake. Le proof of stake, c'est qu'au lieu de fournir un travail, donc de la puissance de calcul, on met en jeu ses avoirs en crypto sur la blockchain et on prouve qu'on a un enjeu dans cette blockchain. Et donc, on a de cette manière la possibilité d'attribuer à différentes personnes qui sont dans le système des nouveaux cryptos, des nouveaux Ether en l'occurrence, sans qu'ils aient besoin de fournir une puissance de calcul et dévorer une électricité importante. En gros, ce qu'il faut retenir, mon explication est peut-être un petit peu compliquée, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on passe d'un système extrêmement énergivore à un système qui ne l'est quasiment pas. Et il y a deux blockchains essentielles dans le monde aujourd'hui. Il y a la blockchain Bitcoin, avec les cryptos Bitcoin, qui sont la plus grosse et qui, elles, ne bougent pas, malheureusement. Et il y a, à côté de ça, la blockchain Ethereum, qui fait beaucoup plus que juste des crypto-monnaies, qui fait énormément de choses, des smart contracts, enfin plein de choses. Une énorme partie de tout ce que vous entendez parler dans le monde des cryptos et des blockchains se passe sur Ethereum. Et eux, ils travaillent depuis des années au passage au proof of stake. Bon, cette longue introduction, c'est pour dire qu'on y arrive. En septembre, a priori vers la mi-septembre, la blockchain va faire leur the merge et ils vont passer au proof of stake. Ce que ça veut dire, c'est que au moment où ils vont passer au proof of stake, cette nouvelle version de la blockchain va annihiler sa consommation d'énergie. Mais vraiment, on va passer à 0,5% de ce qu'ils consommaient avant. Donc, l'une des critiques qui n'est pas la seule, mais qui est évidemment extrêmement importante qu'on faisait des blockchains et de la crypto-monnaie, c'est cette consommation d'énergie. Eh bien, la blockchain Ethereum, si ça se produit enfin, hein, ce passage, va complètement désintégrer cette critique parce qu'ils ne consommeront plus d'énergie. Alors, évidemment, la blockchain Bitcoin, elle ne bouge pas, donc ça reste problématique, mais sur Ethereum, ça sera beaucoup plus, au moins ce problème-là, il sera réglé. Et ils ont, la raison pour laquelle j'en parle maintenant et pas en septembre, c'est que ça fait des années et des années qu'ils espèrent faire cette opération Et ça a été retardé, retardé, retardé. Et là, a priori, non seulement ils pensent que ça va se faire, mais ils avaient annoncé une date du 19 septembre, je crois, au départ. Et là, ils l'ont avancé au genre au 16 ou au 15. Donc, ils ont vraiment très confiance et on espère que ça va se faire. Mais ça sera vraiment une transformation pour l'image et l'impact de la blockchain. Ça, je pense que tu ne me contrediras pas, Benoît.
Ouais, bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors tu m'arrêteras. Hein. Première chose, c'est vrai, hein, peut-être pour les personnes qui n'ont pas dans l'idée un petit peu la taille de Bitcoin et d'Ethereum. En gros, la valeur totale du marché par rapport à la valeur totale, Bitcoin c'est 40%, Ethereum c'est 20%, donc à eux deux c'est 60% de la valeur des crypto-monnaies. Donc ça c'est pour montrer, t'as raison, à quel point voilà ils dominent. Je pense que évidemment vu l'état de la planète c'est une bonne chose. Moi je suis complètement d'accord là. Est-ce que vraiment c'est pour ça qu'ils le font? Je suis pas certain. Il y a quand même un des gros soucis des crypto-monnaies, pas des crypto-monnaies, mais disons de Bitcoin et d'Ethereum, c'est le nombre de transactions par seconde. Alors, Bitcoin a ce qu'ils appellent le Lightning Network qui gère ça. Et puis, Ethereum, avec le Proof of Stake, espère passer à plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de transactions par seconde, alors que maintenant, on calcule quasiment encore en unités par seconde.
Donc, pour donner une idée aux gens, l'ampleur du problème des opérations par seconde, c'est que quand il y en a beaucoup, le coût de l'opération augmente. C'est un marché automatisé d'offres et de demandes. Et parfois, pour valider une transaction en Ethereum, il fallait payer, avec le coût de l'Ethereum, le cours de l'Ethereum, il fallait payer plusieurs dizaines, plusieurs centaines de dollars pour faire valider l'opération. C'est ce qu'on appelle les gas fees, donc l'argent qu'on va payer pour l'infrastructure qui va valider l'opération, et ça pouvait monter à des centaines de dollars par moment si le réseau était particulièrement occupé. Donc, quand on imagine qu'on veut parfois faire des opérations de quelques dollars ou quelques dizaines de dollars, payer 100 ou 200 ou 300 pour la valider, ça passe mal, quoi. Donc oui, il y a un intérêt de fonctionnement et économique évident.
Ouais, et puis l'autre chose, alors qui est pas que philosophique, hein, mais qui est intéressante à terme, quand on commençait à parler du Bitcoin, moi ça fait pas peut-être depuis, ça fait 10 ans peut-être que je suis ce truc, il y avait une théorie, en tout cas qu'on partageait à l'époque, c'était de dire, en fait le prix d'un Bitcoin c'est quoi? C'est l'utilité, c'est l'électricité et le matériel, plus une marge. Et donc on avait une sorte de modèle théorique pour prévoir dans un système économique rationnel, qui s'est prouvé être complètement faux, hein, ça on le savait déjà, mais voilà, on pouvait avoir une sorte de lien avec le monde réel, ce qu'on perd complètement avec le Proof of Stake. Alors, on ne connaît pas l'impact, peut-être que ce n'est pas grave, peut-être que c'est dramatique, mais en tout cas, il y a des questions qui se posent ici en termes de où est le pouvoir, comment se partagent dans ce monde supposément décentralisé les intermédiaires. Et on a vu que, voilà, au bout d'un moment, les mineurs, quand même, se mettaient ensemble et on avait quand même des grosses concentrations. Le Proof of Stake ne change pas ça, mais il y a quand même beaucoup de questions de fond qui demeurent et sur quel est l'impact? Donc, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais je pense qu'il faut quand même aussi regarder tous ces aspects-là. Mais au final, c'est vrai que je reviens vraiment sur le point que tu as dit au début. Actuellement, il n'y a pas de monde où on peut justifier l'utilisation énergétique de ces crypto-monnaies. Donc, il faut de toute manière trouver une alternative. Et c'est excellent ce que fait Ethereum dans ce sens-là.
Disons que c'est clairement une grosse étape à voir si ça créera d'autres problèmes. Mais oui, c'est un petit peu, comme tu dis, c'est en quelque sorte une condition sine qua non, quoi. Pour beaucoup de gens, et je pense que c'est justifié, quels que soient les bénéfices ou les utilisations, si on a une consommation énergétique qui est telle, et qui en plus grossit au fur et à mesure que le réseau et l'utilisation grossit aussi, eh ben, rien ne peut le justifier. Donc c'est un problème important à régler, pour un problème existentiel pour ces réseaux à régler. Troisième sujet important que je voulais évoquer aujourd'hui, c'est ces indices qui sont peut-être un petit peu plus que des indices de la fin de la pénurie de puces. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est un article qui a été publié aujourd'hui sur Bloomberg qui détaille les analyses d'analystes qui constatent que d'une part, chez les fabricants, il y a des stocks qui commencent à s'accumuler et d'autre part, les demandes commencent à réduire. Et ça, c'est des constats qu'on a fait sur le premier et surtout le deuxième trimestre de l'année. Et c'est pas très surprenant parce que pendant les années de pandémie, bon, la pandémie est encore là, mais pendant les premières années de la pandémie, il y a eu une demande énorme. Certains fabricants ont d'ailleurs acheté beaucoup pour stocker, sachant que les fabricants, je veux dire, les clients des fabricants de puces ont acheté beaucoup pour stocker, les fabricants d'ordinateurs ou de tous les appareils du monde, en fait. Et donc, aujourd'hui, ils ont des stocks. Et donc, ça accélère un petit peu la dégringolade qui part de très haut, puisque la demande était arrivée très, très haut, mais la dégringolade de la demande et qui, en plus, provoque ont un impact sur alors les valeurs boursières, la fabrication. Et l'autre aspect qui est intéressant, c'est que plusieurs pays ont commencé à construire des usines de fabrication de puces. Et c'est une chose qu'on a a priori qu'on considérait comme positive parce qu'ils voulaient avoir un petit peu d'indépendance pour le cas où il y aurait une crise à venir. Et du coup, si maintenant, durablement, la demande chute et que la capacité de production des usines existantes aujourd'hui et pas celles qui vont être construites dans les deux ou trois prochaines années, bah, si cette capacité suffit, est-ce que ces usines auront été construites pour rien ? Bon, ça, c'est un sujet dont on pourra parler dans un instant. Mais du coup, ces signes qui ont l'air très, très clairs. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de la chose, mais Bloomberg, ils savent de quoi ils parlent. Et ce n'est pas vraiment dans la théorie ou la supposition. D'après ce qu'ils disent, ça a l'air d'être assez clair. Là, on arrive en ce milieu d'année à un moment où durablement, la demande chute suffisamment pour que, dans les mois à venir, la pénurie se résorbe complètement, voire qu'on ait plus d'offres que ce qui est nécessaire. Bonne nouvelle quand même. On va pouvoir acheter des PlayStation 5 plus facilement, Benoît. Toi, tu es aux anges. Bon, je plaisante, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Ça avait des impacts importants sur le quotidien, tout ça.
Oui, et alors moi, je ne suis pas du genre à penser que le marché règle tout et que c'est la solution à tous nos problèmes. Par contre, ici, je dois dire que je n'ai jamais eu trop ce doute parce qu'il y a tellement d'enjeux à ce niveau-là que j'avais confiance dans le marché, on va dire. Et je trouve, j'ai toujours été critique hein, quand l'Europe disait on veut avoir nos propres fonderies ou en France, il y avait aussi pendant les élections cette idée de soutenir les fonderies. Maintenant, c'est autour des États-Unis. Hein, tu as vu, ils ont ce Semiconductor Chips Act. C'est 350 milliards qui sont mis en jeu. Et ils arrivent clairement après l'orage parce que, voilà, on le voit, ça va mieux. Alors, bien sûr, il y a des aspects stratégiques qu'on peut prendre en compte. Je ne suis pas certain que de construire à tout prix de manière un peu planifiée des usines, ça réponde aux besoins qu'on aura. Parce qu'on est en train d'essayer de résoudre un problème de maintenant, mais le temps de construire tout ça, on sera 5 ans plus tard et on ne sait pas, on ne connaît pas nos besoins à ce moment-là. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, je trouve que c'est, on est bien d'accord, une excellente nouvelle et que de nouveau, bien, les entreprises, là, elles voient le profit, hein, elles voient qu'il y a quelque chose à faire, donc elles sont capables de répondre à la demande qui est très forte. Donc, excellent. Et comme tu as dit, super pour la livraison de PlayStation.
Oui, et on posait la question dans la chatroom, ça devrait concerner tous les domaines de l'industrie. Hein. Ce n'est pas uniquement pour... je ne sais pas, les cartes graphiques ou les processeurs, mais c'est, à vrai dire, pour beaucoup d'industries, ce n'était pas ces pièces-là qui manquaient, c'était plus des toutes petites pièces à 1 ou 2 dollars qui permettaient de contrôler l'alimentation ou la carburation dans un moteur, ce genre de choses. Donc, mais c'est à tous les niveaux que ça devrait se résorber. Pour ce qui est de l'intérêt stratégique, moi, je ne suis pas tout à fait sur la même ligne que toi. Je crois que c'est le genre de choses, tu sais, c'est comme, je sais pas, une assurance. Une assurance, quand t'en as pas besoin, t'as l'impression que tu payes pour rien, mais le jour où t'en as besoin, t'es bien content de l'avoir contracté. Et là, c'est exactement la même chose. On n'a évidemment pas besoin, enfin, Taïwan peut alimenter le monde et l'a fait pendant des décennies en puces, mais Ça se passait très bien quand ça se passait très bien. Le jour où on a eu les problèmes de pandémie et de demande contrainte, disons que la pandémie a accéléré ce problème, eh ben, on était bien dans la mouise. Et en l'occurrence, si demain il y a un autre incident de ce type, que ce soit, je sais pas, une pandémie dans 5 ans ou une guerre ou... On a vu que ce n'est pas forcément impossible. La Chine qui décide de reprendre Taïwan en bravant la communauté internationale, eh ben, si toutes les usines de Taïwan ne peuvent plus fournir l'Occident, je peux t'assurer qu'on sera bien content d'avoir des usines et surtout du savoir-faire en Occident, en Europe ou aux États-Unis, pour pouvoir essayer de se retourner, non pas d'un jour sur l'autre peut-être, parce que les usines seront peut-être un petit peu sur des processeurs qui seront une finesse de gravure moins importante, mais on aura le savoir-faire et sur les quelques années qui suivront, peut-être réussir à trouver des solutions. Et même les puces, ok, idéalement, on veut des puces de dernière génération de 2 nanomètres et de 3 nanomètres, mais si on n'en a pas, eh ben, c'est peut-être pas plus mal d'en avoir de 10 nanomètres qui traînent quelque part pour faire quelque chose quand même, tu vois. Donc je crois qu'il est très facile, et oui, économiquement, ça n'a pas de sens peut-être d'avoir ces usines construites et ce savoir-faire ramené maintenant que la demande se réduit, mais c'est l'intérêt stratégique justement qui, à mon sens, dicte cet impératif. C'est autant... pour les puces que pour d'autres choses, hein, que ce soit l'énergie ou la nourriture ou ce genre de choses, il faut une certaine mesure d'autonomie de manière à ce que s'il y a un problème, eh ben, au moins on a le minimum et peut-être qu'en rationnant, on s'en sort. Donc,
je pense que la différence de point de vue, ça vient de à quel point on va manquer la marque, à quel point on va créer le savoir-faire. Parce que je suis d'accord avec toi, si j'avais l'impression qu'on serait pas loin du compte, on est d'accord, on ne sera pas pile poil à ce qu'on a besoin, mais disons assez proche, je pense que ça vaudrait la peine. Mon souci, c'est que je pense qu'on risque d'être en fait très loin du compte parce que simplement, ce n'est pas quelque chose qui est demandé par le marché. Donc, on va faire ça. C'est comme ces projets de recherche européens qu'on voit des fois où on fait un truc, ça ne sert à rien, puis après, on oublie, on fait autre chose. Je ne dis pas que tous les projets de recherche sont comme ça, mais j'en ai connu, mettons. Et après, ça ne sert vraiment à rien. Ce n'est pas qu'on va dire on va réutiliser un jour. Et j'ai quand même l'impression qu'on risque d'être dans ce cas de figure. Mais comme tu dis, il y a ce côté assurance. Alors, l'assurance, de mon côté, c'est au moins c'est virtuel. Et si c'est bien géré, pourquoi pas? Bon, on verra. On verra à l'usage.
Ce que je dirais à ça, c'est que l'objectif n'est pas tant. C'est pas que si demain, toute la chaîne de production s'écroule et qu'on ne réussit plus à avoir de puces du tout. D'ailleurs, l'idée, c'est pas qu'on va remplacer toutes les puces qu'on avait avec de la production européenne. Encore que l'objectif, c'est d'avoir 20% de production en Europe, ce qui n'est pas négligeable, hein. Mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de pouvoir au moins avoir un minimum pour assurer le critique. Tu vois, pouvoir continuer à fabriquer des ordinateurs un minimum. Peut-être que tout le monde n'aura pas... Description apocalyptique. Hein. La Chine envahit Taïwan et ça se passe mal, toutes les usines sont détruites ou Taïwan ne peut plus exporter du tout. Bon, bah, peut-être qu'on pourra fabriquer des machines qui ne seront pas aussi puissantes ou aussi belles et qu'on n'aura pas un iPhone, une Apple Watch, un iPad et un ordinateur, mais au moins peut-être qu'on pourra, si notre ordinateur précédent qui existait se casse, eh ben, acheter un nouvel ordinateur. Peut-être qu'on pourra fabriquer de quoi remplacer les pièces qui ne fonctionnent plus dans l'infrastructure réseau, tu vois, des routeurs, des choses comme ça. Peut-être qu'on aura des puces pour équiper les chasseurs, les avions de combat ou les trains, tu vois, ce genre de choses. C'est pas qu'on va tout à coup remplacer toute la production, c'est juste que de la même manière qu'une certaine autonomie alimentaire est nécessaire pour se dire, bon, bah, si c'est la guerre et qu'on ne peut plus avoir tous les produits qu'on voulait avoir, c'est pas qu'on va tout à coup se dire, ah bah c'est bon, on peut avoir tous nos fromages, nos jambons, notre vin, tout ça. Non, c'est qu'on va se dire, on va avoir suffisamment de blé pour fabriquer suffisamment de pain pour que les gens ne meurent pas de faim. Tu vois, c'est ça
je pense le contre-pied à ça, c'est de se dire, mettons de nouveau, hein, si on est dans une logique de marché, c'est de se dire, OK, on a un truc qui sert plus ou moins, qu'il va falloir changer, versus Combien de temps faudra-t-il à Apple et les autres pour construire leur propre fabrique, sachant qu'il y aura un gain tel à faire à ce moment-là qu'ils vont investir là-dedans.
Et ils vont faire si jamais on arrive dans cette situation de crise, Apple va dire « bon, bah, ok, on fait des usines maintenant aux États-Unis, ça va nous prendre 3 ans, mais on aura les nôtres ». C'est ça que tu veux dire?
Exact. Et la question, c'est de se dire, avec les milliards qu'on met là, est-ce qu'on gagne 2 ans? Dans quel cas, ça serait vraiment bien, ça vaudrait la peine. Après 350 milliards, il faudra voir comment ça se décline aux États-Unis. Si ça leur prend 3 ans aussi, tu vois, on aura fait tout ça pour rien. Et j'ai vraiment pas d'éléments qui me permettent d'être convaincu qu'on va être beaucoup plus rapide. Mais,
ouais, voilà. Bon, écoute... Moi, c'est peut-être irrationnel, mais je me dis, je préfère qu'on ait d'une part de quoi se retomber sur nos pattes et d'autre part un petit peu d'entraînement, qu'on ne se réveille pas le jour où ça va mal. Pour certains trucs, hein, l'énergie, l'alimentation, les processeurs, on se dit, on s'est au moins un petit peu entraîné. Oui, ça a coûté cher, mais c'est l'assurance. Mais bon, écoute, j'espère qu'on n'aura jamais à vérifier lequel d'entre nous a raison sur ce point. J'espère qu'on ne sera pas dans ce cas de figure.
Non, et ça, c'est vraiment un vrai bon débat de société et qui touche à la tech. Donc, je me réjouis de voir la classe politique s'intéresser à ça. Maintenant, voilà, comme tu dis, d'un côté ou de l'autre, on sera content ou pas. Mais au final, mieux vaut ne pas savoir.
C'est ça. Un grand merci à ceux et celles qui soutiennent l'émission sur Patreon. Vous savez que, je sais que c'est l'été, vous êtes en vacances, c'est peut-être pas le moment d'aller sortir votre carte bleue pour soutenir l'émission. Donc, je fais quand même la mention pour le cas où il y en a qui se disent « Allez, je vais compenser les autres », parce qu'il y a toujours des gens qui s'arrêtent, des cartes bleues qui se terminent, etc. Donc, il y a un churn, c'est comme ça qu'on dit, donc il faut toujours des nouveaux qui arrivent. Mais j'en profite aussi, du coup, en plus de ces remerciements, pour remercier Alexandre Drébastard, qui m'a laissé un long commentaire sur iTunes. Vous avez été nombreux à le faire, d'ailleurs. Donc, un grand merci à vous tous. Et au milieu de ce long commentaire, il dit « Anecdote personnelle, ma femme m'a surpris au lit avec Patrick ». Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui me reconnaissent. Clairement, on a des relations plus intimes que je ne pensais. Mais il continue. « Malheureusement, elle a trouvé cela à son goût et maintenant, je dois l'attendre pour écouter le nouvel épisode. » Donc, merci beaucoup à toi, Alex. Et merci, Madame Alex, d'apprécier ma présence. Bon, clairement, dans tout type de configuration avec monsieur, en tout bien, tout honneur, évidemment. Donc, merci pour le commentaire, Alex. Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon, patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission, bien sûr. Si vous n'êtes pas en vacances, eh ben, vous pouvez peut-être y penser maintenant. Et si vous êtes en vacances ou en vadrouille, ça se fait très bien sur le téléphone, mais vous pouvez, quand vous rentrez chez vous, vous savez, vous allez rentrer de vacances avec les valises, les clés dans le bol, enfin à la maison, parce que les vacances, c'est très bien, mais parfois, on aime bien rentrer chez soi. Les clés dans le bol, cling ! Et là, vous dites, oh, Patrick qui m'a accompagné pendant les vacances, qui m'a accompagné peut-être pour m'endormir dans le lit, qui m'a accompagné pendant que je faisais mon exercice. Cling, Patrick, patreon.com/rdvtech pour soutenir cette émission qu'on fait avec amour.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on va passer au reste de l'actu avec des sujets traités un petit peu plus rapidement tout de même, mais qui n'en sont pas moins intéressants. Vous avez peut-être vu passer le hashtag Delete Facebook. Delete Facebook, c'est un hashtag qui est, c'est pas la première fois qu'on le voit, mais qui a été particulièrement rendu populaire suite à une affaire liée à l'avortement. et au droit à l'avortement qui n'a plus cours dans certains États des États-Unis. En l'occurrence, dans le Nebraska, Facebook a donné à la police des informations qu'ils avaient en leur possession sur une jeune femme, une adolescente de 17 ans. En fait, c'était des messages qu'elle échangeait avec sa mère, des messages privés. Et la police a demandé ces informations dans le cadre d'un avortement que la jeune femme avait fait, et du coup qui va permettre à la police et à la justice de faire un procès à la jeune femme et peut-être de la condamner pour cet avortement. Alors évidemment, c'est un sujet qui est extrêmement sensible, mais sur ce sujet en particulier, d'abord, c'est intéressant de noter que ce que nous disait Lucie il y a quelques semaines, c'est que sur ces questions, c'est pas tant les apps de tracking, de règles ou ce genre de choses qui lui font peur, c'est plus justement les recherches sur Google ou les réseaux sociaux, et clairement, c'est pas faux. C'est de là que peuvent venir les problématiques. Mais Meta, donc la société mère de Facebook, a donné des précisions sur cette affaire. Et je dois avouer que, malgré mon positionnement sur ces sujets, il me paraît difficile de vraiment condamner Facebook dans ce cas précis, parce que ce qu'ils ont reçu, c'est une demande légale qui a été envoyée d'abord avant la décision de la Cour suprême sur Roe v. Wade. Ensuite, c'était une demande qui ne mentionnait pas d'avortement, mais qui mentionnait, alors c'est un petit peu glauque, mais un fœtus qui avait été enterré et brûlé dans l'affaire. Et il y avait un gag order, donc un non-disclosure, un ordre qui leur imposait de ne pas en parler. Donc, le truc, c'est que, d'une part, ils ne savaient pas vraiment à quoi c'était lié, et d'autre part, surtout, c'est une demande légale, et je pense qu'on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'on, du coup, demande, et c'est une question qu'on se pose souvent quand on parle de tous ces réseaux sociaux, est-ce qu'on veut vraiment que Facebook ou d'autres grandes sociétés ignorent les demandes légales ? Je crois que là, vraiment, pour le coup, c'est un problème avec cette loi avec laquelle on peut être d'accord ou non, mais c'est difficile vraiment objectivement de condamner Facebook dans cette affaire, parce qu'ils reçoivent une demande d'un juge, ils sont bien obligés de livrer les infos qu'ils ont, je pense.
Ouais, écoute, je suis tellement d'accord avec toi, je ne vais pas rajouter grand-chose. Je pense qu'ici, c'est une question, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Quand ça nous arrange, alors Facebook doit absolument, ils sont pas au-dessus de tout le monde, qu'est-ce que c'est que ça ? Puis quand on n'est pas d'accord d'un coup, alors Facebook, collabo, c'est pas normal. Je veux dire, à un moment, il faut être cohérent, il faut avoir de l'honnêteté intellectuelle. Et alors, tu as raison, il y a des saveurs de dilette Facebook. Chaque saison, on parlait de mode au début d'émission. Là, c'est la saveur, OK. Évidemment, le fond est terrible et politiquement, on peut partager les soucis que ça soulève. Mais ça, c'est politiquement, au niveau de Meta, je suis entièrement d'accord avec toi.
Ouais. Disons qu'il y aurait une solution qui serait celle que Facebook implémente le chiffrement de bout à bout et du coup, il n'aurait plus ces informations. Ça pose d'autres questions, mais ça serait une solution. Ça, on pourrait le demander. Mais en l'occurrence, oui, c'est un problème qui se répercute sur Facebook, alors que c'est une question morale qui se situe au niveau de la loi plus qu'au niveau de Facebook, je pense. Il y a un autre truc, alors c'est le jour où j'excuse Facebook de tout, mais un autre sujet dont vous avez peut-être entendu parler ces dernières semaines, le chatbot de Facebook qui s'appelle, Blenderbot, qui a été entraîné sur les conversations de Facebook et qui du coup est évidemment antisémite, plein d'infox, ce genre de choses. Par exemple, parfois quand on lui pose la question « qui est le président des États-Unis », il dit « c'est Donald Trump ». Aujourd'hui, ce genre de choses, ou qui dit qui a des réponses assez problématiques. Et on a là aussi assez vite commencé à critiquer Facebook, voire à se moquer de Facebook. Et je crois que c'est assez compréhensible. Mais ce qu'on oublie vite, c'est que ce Blenderbot, il est en test et que Facebook, justement, a demandé aux gens de le tester, aux chercheurs d'en éprouver les problèmes pour voir s'ils pouvaient les corriger. Et du coup, c'est une démarche qui est plutôt saine et qui est justement assez ouverte de la part de Facebook, qui est passe toujours dans cette optique. Donc là aussi, bon, je ne veux pas excuser Facebook surtout. D'ailleurs, il y a une troisième news qui arrive tout de suite. Mais sur ce point, bah, ils font les choses plutôt bien. Et j'espère que s'ils ne réussissent pas à corriger ces problèmes-là qu'on constate pendant cette période de test, eh ben, ils prendront les décisions qui s'imposent. Mais...
En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que Patrick s'est devenu un Meta fanboy. et puis, il a vraiment changé. Au début, il n'était pas comme ça. Hein. Et maintenant, c'est... voilà, quoi. Donc...
Patrick, t'as changé, c'est ça. Écoutez, je vais cacher les photos de vacances. En fait, j'étais pas à Paris, mais en Californie avec Marc sur son yacht. Donc évidemment, tout à coup, mon discours change.
Je crois qu'il vit beaucoup à Hawaï. Hein. Il a même plus envie d'être en Californie. Il a l'air de se plaire à Hawaï. Donc,
d'accord. Ouais. Faire du surf. On a été faire du surf, c'est ça. non, écoute, il y a quand même un truc que je peux critiquer et qui est quand même assez important, c'est la manière dont Facebook et Instagram réussissent à vous traquer et à traquer tout ce que vous faites, malgré toutes les précautions que vous pouvez prendre. Et en fait, c'est en particulier sur iOS, ils ouvrent les pages que vous consultez, non pas dans le navigateur Safari externe, mais dans un navigateur interne, alors qu'il y a aussi WebKit et Safari en dessous, mais sur lequel ils ont tout le contrôle, parce que c'est un navigateur qui reste techniquement dans l'app que vous utilisez. Et en plus de ça, ils insèrent dans les pages web que vous consultez depuis Facebook ou Instagram un petit script qui leur permet d'avoir plein d'informations sur ce que vous faites, où vous allez, ce que vous faites, etc. Donc, c'est une démarche qui n'est pas si surprenante de la part de Facebook/Instagram, mais qui est quand même un petit peu... C'est pas juste même qu'ils utilisent le navigateur intégré pour traquer ce que vous faites, mais en plus de ça, ils insèrent un script pour pouvoir vous traquer encore plus. Donc, c'est un petit peu critiquable, je dirais. Même si rien ne les en empêche. Hein. Techniquement, il n'y a pas de règle qui fait qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Mais c'est le cas dans toutes leurs applications, Instagram, Messenger, Facebook, etc. sur iOS.
Les données, c'est du crack. Hein, et quand on nous enlève le crack, on n'a qu'à même envie. Donc, on trouve tous les moyens pour y arriver. Ça montre quand même, ce qui est intéressant, c'est à quel point, et on le sait, hein, mais à quel point ces sociétés restent dépendantes de leur business model des données. Et c'est un peu désespéré, presque, comme façon de faire. Mais c'est aussi le champ du cygne. Hein. Clairement, on va falloir changer.
Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'est juste on peut, donc on le fait. Alors, le champ du cygne, c'est possible. Mais justement, du coup, je vais parler un petit peu d'Apple et donc je vais forcément dire du bien d'Apple après avoir dit un petit peu de mal de Facebook. Eh bien, pas vraiment, pas exactement, parce qu'il y a un thread absolument formidable sur Twitter qui détaille, d'ailleurs je l'ai mis dans, je pense qu'il sera dans la newsletter que je publie toutes les semaines, mais un thread de Eric Seufert, qui est un analyste de développement mobile, qui détaille depuis assez longtemps la manière dont Apple est en train de faire un casse sur le revenu de la publicité. Et il parle en particulier de cet aspect qui est extrêmement controversé, du ATT, App Transparency, App Tracking Transparency, donc qui vous laisse choisir si une application tierce peut traquer vos activités sur d'autres applications ou non. Et donc, ça a été implémenté il y a un moment déjà, hein, et ça pose beaucoup de problèmes à Facebook, justement. C'est peut-être pour ça que tu parlais de champ du cygne, parce qu'ils doivent se reposer sur les données qu'ils ont sur vous sans pouvoir faire du cross-check avec les données qu'ont d'autres développeurs ou d'autres banques de données ou d'autres applications, si vous choisissez de ne pas leur autoriser. Eh bien, discrètement, pendant le même temps, Apple a développé son propre business publicitaire. Alors, vous allez me dire, mais attendez, Apple, business publicitaire, mais où est-ce qu'ils font de la pub ? Ils ont essayé iAds il y a des années, ça n'a pas du tout marché, donc ils l'ont abandonné. Et forcément, ça leur a facilité le fait de dire, nous, on n'aime pas la pub, on protège votre vie privée, etc. Donc, ils font où de la pub, Apple ? Eh bien, il y a trois applications principalement. Apple News, qui n'est pas vraiment utilisée en Europe. L'application des stocks, les actions, voilà, l'application d'actions, il y a des pubs dedans, et surtout dans l'App Store. Dans l'App Store, il y a de plus en plus de publicités qui répond aux nécessités de l'App Tracking Transparency si vous lui imposez, évidemment. Donc, il ne va pas utiliser les informations qu'Apple pourrait avoir sur vous par des applications tierces. Mais Apple a déjà tellement d'informations sur vous qu'ils peuvent vous proposer des choses de manière extrêmement judicieuse, là où d'autres développeurs, peut-être pas les plus gros, mais certains plus petits, auront plus de mal. Et en plus, l'App Store est une plateforme qui a le monopole de fait sur la distribution d'apps sur iOS. Et du coup, le fait qu'il y ait de la pub dedans, eh ben, il n'y a que Apple qui peut en profiter. Et vous l'avez peut-être constaté, il y a de plus en plus de pubs. Il y a, quand vous faites des recherches sur les pages de les applications du jour, etc., etc. Et ça va tellement loin qu'il semblerait, d'après les rumeurs, que le responsable de la pub, qui s'appelle Todd Teresi, est directement sous Eddie Q maintenant, donc l'un des plus gros responsables exécutifs vice-présidents, et qu'il compte faire monter le revenu publicitaire à 4 milliards de dollars, qui est aujourd'hui à 4 milliards de dollars par an. Il veut plus que le doubler dans les années à venir. Alors, 4 milliards, ça ne représente pas beaucoup pour Apple. Peut-être que 10, ça ne représentera pas beaucoup non plus. Mais c'est quand même un business monumental qui bénéficie de son initiative d'App Tracking Transparency, donc de la protection de votre vie privée. Alors, Benoît, est-ce que c'est Apple qui a créé ces questions de vie privée et de protection pour pouvoir développer ce business, ou est-ce qu'ils sont juste opportunistes sur la question ?
Alors, 100% qu'ils sont opportunistes. À mon avis,
c'est pour ça qu'ils l'ont fait, tu penses ?
Non, c'est deux initiatives qu'ils avaient en parallèle, alors qu'ils savaient évidemment que les deux leur profitaient. Et puis, il se trouvait qu'il y a eu une synergie incroyable et que quelqu'un a su l'exploiter. Mais je crois pas qu'à un moment, ils se sont dit dans une salle de réunion, ah, plan 1, première étape du plan, on fait tout ça, on change le monde et après, deux, on fait de l'argent avec la pub. Mmh. Ils sont extrêmement opportunistes et bravo à eux d'un certain côté. Mais je ne vois pas de manière cynique pour le coup.
Ouais. Je suis un petit peu sur ta ligne et puis surtout, j'espère que cette constatation qui est importante quand même ne va pas servir à contester la pratique de l'App Tracking Transparency qui vous donne le choix sur le fait d'être traqué ou pas. Il y a peut-être des moyens de dire « bah non, c'est quand même bénéfique » et on peut tout à fait en arguer de ce fait que c'est bénéfique d'utiliser de manière régulée et saine le tracking publicitaire. Mais c'est pas... on peut en arguer. Mais le fait qu'Apple bénéficie de ça, à mon sens, n'est pas un argument en faveur de dire « bah non, donc il ne faudrait pas avoir la tracking transparency ». Mais tu sais quoi ? Il y a une chose qui est incontestablement révolutionnaire, qui arrive avec iOS 16 sur iPhone, sur les iPhones avec encoche. C'est le retour d'une fonctionnalité adorée qu'on avait perdue avec les premières encoches, l'affichage du pourcentage de batterie sur la batterie qui avait été retirée par Apple et qui revient avec iOS 16 en option. On peut avoir le chiffre du pourcentage de la batterie qui s'affiche dans la batterie. Enfin, merci Steve ! Merci Saint Steve ! Merci. Alors, malheureusement, il avait disparu, mais merci grâce à vous, grâce à Apple, on peut récupérer cette fonctionnalité essentielle.
Ouais, j'avais même pas remarqué. J'ai un iPhone parmi d'autres téléphones. Mais c'est bien quand on peut avoir ce genre de problème. Je pense qu'il faut réaliser le luxe dans lequel on vit et profiter et bien profiter de ce genre de problème. Donc, je me réjouis aussi. Voilà, je savais pas que ça me manquait. Maintenant, ça me brûle. Donc je me réjouis.
Maintenant, je regarde mon téléphone qui a pas encore iOS 16 et je me dis, mais pfff. Oh là là,
il est nul.
Je vais le jeter à la poubelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? D'ailleurs, j'ai oublié mon iPad dans l'avion en revenant. J'ai oublié mon iPad dans l'avion. Alors, il était vieux. Il datait de 2016, je crois. Donc, 6 ans. Je crois 5 ou 6 ans, 5 minimum. Et comme par hasard, il y a des iPad Pro M2 qui vont arriver dans 2 mois. Mais incroyable. Donc tu vois, en fait, ce que ça m'inspire, cette histoire de pourcentage de dans la batterie, affichée dans la batterie, c'est sur l'écran, je pense que vous avez compris, mais c'est ce que je voulais dire. Il faudrait que je pense en bon businessman, tu vois, podcasteur, qu'est-ce que je pourrais retirer aux auditeurs pour qu'il soit content de le récupérer quand je déciderai de le ramener dans 2 ou 3 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Peut-être les jingles.
Ah ouais.
Et ça, les gens l'aiment tellement maintenant, si je le retire, ça va faire scandale. Mais du coup, quand je le ramènerai, ils seront heureux, je pense.
Ou alors, en début d'émission, j'étais sur mute, et peut-être c'est ça, l'invité ou les invités. Et disait, attends, c'est voilà.
Tu sais, on se plaint déjà que je parle un peu trop et que je coupe la parole aux gens.
Justement, il faut revenir, il faut payer, et c'est puis là, ça, peut-être, exactement. Peut-être.
Allez, quelques news supplémentaires. On a une... c'est un petit peu dans le what the fuck, là. C'est une nouvelle émission de télé-réalité qui implique les rings. Est-ce que tu sais ce que c'est que le ring de Amazon ?
C'est caméras de sécurité, c'est ça ?
Exactement. Et Amazon est en train de développer une émission de télé-réalité où ils vont utiliser des extraits genre mignons de ces caméras Ring, de maisons connectées. Hein, c'est des caméras de surveillance, des caméras qui filment la personne qui est à votre porte quand elle sonne, etc. Bon, c'est très pratique pour certaines utilisations. Mais une des critiques que j'ai lues et qui m'a beaucoup interpellé dans Motherboard, la section tech de Vice, c'est le fait que ça normalise la dystopie de la surveillance, comme ils le disent dans le titre. Et c'est vrai que le fait de voir des petits extraits marrants, genre « Oh, on voit un truc mignon que la caméra a capturé avec le... » Tu sais, je peux tout à fait imaginer le papa qui revient de son service militaire et les enfants qui sont super émus et qui viennent en courant le récupérer, ou le truc marrant, ou un, je sais pas, quelqu'un tombe dans un gâteau qui a été livré, ou ce genre de truc débile. Mais en même temps, ça normalise cette surveillance. Et je pense que Amazon, donc ça s'appelle Ring Nation, Amazon n'est pas totalement étranger à l'idée que ça fait de la pub pour ces appareils. Et bien sûr, on ne va pas montrer les fois où la police a demandé des extraits qui ont permis de condamner quelqu'un qui était autrement innocent ou qui ont mal identifié une personne. Tu vois, tous ces problèmes qu'on a avec les caméras de surveillance présentes partout dans toutes les villes. Et là, ça normalise vachement le truc. Donc, c'est pas juste un truc marrant, je trouve. Et la réflexion m'a interpellé.
Ouais, c'était quoi ces émissions dans les années 90 où tu sais, t'envoyer tes VHS
oui.
Et puis ça me fait penser un peu à ça, un peu d'une qualité pourrie et des trucs en boucle qui n'avaient aucun sens. Je pense qu'on va là-dessus. De là à dire que ça normalise.
Vidéo gag, dit-on dans la chatroom.
Oh, bien vu, vidéo gag. Alors, si vous n'étiez pas né quand vidéo gag est sorti, alors allez voir, quoi. C'était du grand art. Et puis, ça montre toujours, en fait, que voilà, on est. Ça n'a pas commencé avec Internet, ce genre de soucis. C'est là que je veux en venir. Et ici, ouais. Alors, oui, mais je dirais, OK, c'est plutôt une confirmation que vraiment quelque chose qui va contribuer, à mon avis. Mais ouais. Ça pointe vers un problème qui existe, ça, je suis d'accord.
Ouais. Twitter et Google ont présenté des mesures pour protéger l'intégrité des élections à venir aux États-Unis. Et il y a deux éléments qui m'ont interpellé. Ça aussi, c'était dans la veille sur Twitter et que j'ai fait sur Twitter sur le compte @RDVTech. C'est le compte que j'utilise pour faire ma veille. Deux choses qui m'ont interpellé. D'une part, sur Twitter, l'existence de pré-bunks. Qu'est-ce que c'est qu'un pré-bunk ? C'est pas un debunk, donc une vérification, mais un avertissement avant que la vérification soit nécessaire. Donc sur des sujets un petit peu controversés, ils auront des informations présentées à l'avance. Et peut-être sur certains tweets qui parlent de certains sujets, ils vont préparer des choses. Par exemple, s'il y a des flux ou des threads qui parlent, je sais pas, de la manière dont on vote, ils vont avoir associé des labels, enfin des petites informations qui expliquent les choses en français, enfin anglais espagnol et d'autres langues, pour pouvoir prévenir en fait le fait de se faire embarquer dans des infox. Ils peuvent nous lancer dans des trucs interminables sur Twitter. Donc ça, c'est une bonne manière d'approcher, une manière intéressante d'appréhender les problèmes de fausses informations sur Twitter. Et l'autre qui m'a paru intéressante, c'est sur Google, où ils vont faire un truc qui semble pourtant évident, mais auquel je n'avais pas pensé. Donc peut-être que vous allez vous dire « Ah, mais enfin, évidemment qu'il fallait le faire, mais je crois que j'en ai jamais entendu parler, donc personne n'y avait pensé. » C'est le fait de dire, quand on n'a pas un résultat valable dans une recherche sur Google, eh ben, on va le dire. C'est-à-dire que Google va nous dire, pour cette recherche, il n'y a pas de résultat cohérent. C'est-à-dire, on n'a pas de résultat pour vous. L'exemple qu'il donne, qui est assez neutre évidemment, c'est comment rentrer en contact avec les Illuminati. Si jamais on a tous les résultats les plus cohérents qui sont affichés, eh ben, on va se dire, OK, c'est la réponse à ma question. Sauf que là, il y aura un label qui dit « Il semble qu'il n'y ait pas de résultats qui correspondent à cette recherche. » Donc, on vous présente ce qu'on a, mais vérifiez bien la source, essayez d'autres termes. Donc, ça vous indique quand même que bon, ça amène un petit peu de friction, quoi. Ces deux choses, je les ai trouvées assez intéressantes et assez positives.
Bah, bravo, je crois qu'on les a beaucoup critiquées pour leur inaction à un moment où on trouvait qu'ils ne faisaient rien. Il n'y aura pas une chose qui va tout résoudre. Je trouve que ces deux exemples sont excellents, donc ouais, je me réjouis de voir ce que ça donne.
Google est en train de tester le fait de pouvoir lancer un jeu en streaming directement depuis des résultats de recherche. Alors quand on parle de jeu en streaming, on parle de Stadia, on parle de, du xCloud de Microsoft dans le Game Pass, on parle aussi de GeForce Now, ce genre de choses, donc les jeux qui sont streamés comme une vidéo Netflix ou ce type de technologie. C'est intéressant parce que c'est exactement le potentiel qu'on imaginait à cette technologie il y a quelques années quand elle a commencé à être introduite et quand Stadia a été présentée. C'est-à-dire qu'on a une recherche sur un jeu ou même sur une vidéo et on peut non seulement s'informer dessus, mais aussi directement lancer le jeu depuis le résultat de la recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que Google ne privilégie pas uniquement son propre service Google Stadia, qui est d'ailleurs pas hyper en forme, mais il permet aussi à Microsoft et Nvidia de plugger leur propre service également. C'est plutôt pas mal.
Tu viens de me rappeler que j'avais un compte Stadia et que j'ai même quelques jeux dedans auxquels j'ai pas joué tellement j'ai oublié ce truc. Donc merci, tu vas me permettre d'aller redécouvrir tout ça, quoi.
Et ben voilà, t'as même pas besoin d'ordinateur ou de quoi que ce soit. Tu peux, enfin, d'ordinateur puissant, tu peux directement le faire depuis et bientôt directement depuis une recherche Google. C'est marrant parce que les gens vont se dire ah mais écoute, on peut très bien aller dans le service qu'on a et puis chercher le jeu et puis le lancer. Mais il y a plusieurs choses que je note, c'est que d'une part, de manière un petit peu, c'est peut-être un petit peu trivial, mais beaucoup de gens ne vont pas taper facebook.com, mais taper Facebook Enter et cliquer sur le premier lien. Donc, il y a une vraie... Et moi, je me souviens qu'il y a, je ne sais pas, peut-être 10 ans, je disais, mais enfin, tu fais Ctrl Enter, ça fait facebook.com. J'avoue qu'aujourd'hui, il m'arrive, quand je cherche un site web, de taper le nom dans la barre de recherche, d'appuyer sur Enter et de cliquer sur le lien. Donc, pour un jeu, ça pourra me permettre de le lancer directement. Et puis surtout... si c'est bien fait et que ça connecte, ça sait ce que j'ai sur mes comptes parce que je suis logué sur le navigateur déjà dans les différents services, ça pourra me dire, je sais plus, quand je ne sais plus où j'ai un jeu, eh ben je tape dans Google, je mets le résultat et ça me dit, regarde, tu l'as en streaming sur le Game Pass, est-ce que tu veux y jouer comme ça ? Eh ben ça serait beaucoup plus pratique que devoir aller chercher sur chaque service. Attends, est-ce que je l'ai là ? Est-ce que je l'ai là ? Bon, idéalement, je sais qu'il y a CD Projekt qui faisait ça avec Good Old Games, mais je crois qu'ils l'ont un petit peu abandonné. Idéalement, je voudrais que Google me dise, quand je fais une recherche de jeu, est-ce que je l'ai déjà obtenu gratuitement quelque part ou dans un service que je paye pour savoir où je l'ai, sur PlayStation, Steam, Epic Game Store, etc. Mais bon, c'est déjà une étape vers ça, quoi.
C'est absolument génial pour découvrir. Moi, alors j'imagine complètement, effectivement, tu cliques, tu joues ton premier 10 minutes, un quart d'heure, déjà, parce que sinon, La friction de devoir downloader, on est d'accord, c'est pas possible. Tu vas pas attendre, downloader, puis c'est qu'un bout. Bref, c'est compliqué, on comprend rien. Tandis que là, c'est immédiat. C'est franchement limpide. Une fois que tu le vois, je pense qu'il n'y a pas de question, quoi.
Ouais. Quoi d'autre ? Deux dernières news qui restent, qui sont plutôt des choses pour lesquelles je vais vous rediriger vers la newsletter dont je parlais tout à l'heure, mais qui sont deux articles vraiment intéressants que je vais évoquer tout de même ici. Donc, comme je le disais, ils seront dans la newsletter. Vous pouvez aller sur notepatrick.com pour vous abonner à la newsletter. Deux articles qui parlent d'influenceurs. Le premier, c'est un article, alors que je vous cite exactement, c'est dans le Washington Post. Il parle de la manière dont les influenceurs voyagent, font de la publicité pour certains régimes plutôt critiquables. Ils prennent l'exemple notamment de la Syrie, où il y a des influenceurs voyage qui vont se faire sponsoriser pour aller faire un voyage en Syrie, par exemple, sponsorisé par différents sponsors, que ce soit par exemple des sponsors de VPN. C'est cohérent avec ce qu'ils proposent, hein, le fait de se déplacer dans différents pays. Mais ces voyages sont souvent validés et contrôlés par le gouvernement en question. Et les influenceurs voyages qui vont dire « Ah ben nous, on ne fait pas de politique, donc on va en Syrie, mais on n'est pas du tout, c'est pas un commentaire sur le pays ou le régime », eh ben c'est difficile de vraiment ne pas te faire de politique parce qu'ils vont rester dans les clous et dans les lieux imposés par le gouvernement et donc présenter une image du pays qui est extrêmement contrôlée par les gouvernements. Et donc, il donne quelques exemples de YouTubeurs et d'Instagrammeurs qui prennent part à ce genre d'opération et qui, du coup, deviennent un appareil de communication de ces régimes. C'est intéressant parce que la Syrie, spécifiquement, a essayé de faire la même chose avec des journalistes depuis quelques années. Évidemment, ça n'a pas marché avec les journalistes. Mais là, du coup, avec les influenceurs, ils ont des gens qui sont peut-être un petit peu plus naïfs, un peu moins expérimentés, un peu plus... et puis, ce n'est pas leur métier, donc un petit peu plus manipulable. Et du coup, ça a une vraie influence sur la communication du pays. L'autre exemple que je voulais vous donner, c'est... là, c'est Bloomberg qui parlait de ce problème. C'est les casinos crypto en ligne. De quoi s'agit-il ? Alors, ce sont des casinos où on va jouer avec des crypto-monnaies. Mais bien sûr, on peut acheter des crypto-monnaies à l'entrée du casino, l'entrée virtuelle du casino, et qui sont mises en avant par des joueurs sur Twitch, notamment. Et ce sont des joueurs qui vont jouer avec de l'argent donné par le casino et qui vont encourager ce genre de pratique. Alors évidemment, les casinos vont dire on n'autorise pas la pratique dans les pays où c'est interdit, etc., etc. Mais dans la pratique, c'est assez facile de s'y connecter malgré tout. Et il y a des streamers qui ont une popularité immense. On parle de certains qui sont dans les plus populaires de la plateforme et qui, du coup, vont entraîner certains, alors peut-être pas beaucoup, hein, la plupart sont raisonnables, mais certains joueurs dans leur sillage. Twitch disent qu'ils travaillent dessus, qu'ils étudient la chose. Moi, je pense que suite à cet article, ça va aller beaucoup plus vite parce que c'est assez inquiétant. Je vous invite à aller le lire si ça vous intéresse. C'est assez inquiétant la manière dont ça se passe. Et surtout, il y a une certaine, là encore, peut-être inexpérience ou une certaine naïveté ou peut-être simplement que c'est l'appât du gain qui est trop grand chez les streamers qui fait qu'ils disent, eux, alors attention, moi je joue avec de l'argent parce que ça m'amuse et puis j'en ai beaucoup et puis je peux me permettre, mais vous ne le faites pas. Mais il n'empêche que l'image qu'ils donnent, c'est une image qui peut influencer les gens qui les suivent. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et ces streams sont de plus en plus populaires depuis quelques mois. Donc voilà, ces deux articles sur le pouvoir des influenceurs et la manière dont ils sont utilisés de manière pas forcément idéale. Eh bien écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. On a été efficace et je pense assez intéressant, j'espère. Est-ce que tu nous as trouvé intéressant, Benoît, toi ?
Mais absolument, absolument. Non, écoute, c'est vrai que c'est toujours. Non, j'ai bien aimé la variété des thèmes. Des fois, il y a une nouvelle qui domine un petit peu tout, et puis ben voilà, il faut passer l'heure dessus. Je crois que la dernière fois que j'étais venu, on avait passé beaucoup de temps, on avait pris le temps d'aller au fond, et c'était, je l'avais dit, hein, j'aime les podcasts où on peut se permettre de faire ça, mais des fois, on aime aussi pouvoir visiter plein d'angles, et c'était le cas aujourd'hui. Donc, comme toi, j'espère que tout le monde a passé un bon moment.
Écoute, ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que j'espère que les auditeurs seront sur cette ligne aussi, parce que c'est vrai que j'ai aussi un petit peu l'intention avec la rentrée, comme j'en parlais il y a quelques épisodes, d'avoir quelque chose d'un petit peu plus équilibré, ne pas passer sous silence des sujets graves ou problématiques, mais peut-être équilibrer un petit peu plus dans la nature des sujets et puis dans le temps qu'on consacre à différents sujets. C'est vrai que quand on a parlé 10-15 minutes d'un sujet, même s'il est grave, on peut finir par boucler un petit peu et puis c'est pas la peine de passer 45 minutes dessus, à moins que ça soit nécessaire. Si c'est nécessaire, je vous promets qu'on continuera à le faire, mais parfois peut-être qu'on s'étendait un petit peu trop et puis ça assombrit un petit peu l'émission. Je crois qu'il est bon de retrouver cet équilibre. Donc voilà, c'est un exemple de la manière dont on gère ça, j'espère, pour cette nouvelle année. Merci Benoît d'avoir été avec moi. Merci de m'avoir fourni ce supplément d'énergie qui me manquait peut-être avec les 4 heures de sommeil et ma fille qui m'a gardé éveillé la plupart de la nuit. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver ? Je ne l'ai même pas mentionné, mais Baptiste était là à l'épisode précédent avec Guillaume, Baptiste Fred de Niptech. Et donc, bah, c'est vraiment là un août spécial Niptech. Toi aussi, tu es là avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ?
Alors oui, comme tu l'as dit, on a ce podcast Niptech où Baptiste nous amène vraiment beaucoup de connaissances. Et puis sinon, si vous avez des retours, @bcurdy sur Twitter, ouvert à toute idée, proposition, commentaire que vous pourriez avoir.
Magnifique. Merci beaucoup Benoît. Pour ma part, c'est Note Patrick sur tous les réseaux sociaux. Les liens importants sont dans les notes de l'émission, le Patreon, patreon.com/rdvtech, si vous appréciez l'émission. N'hésitez pas à venir bénéficier des incroyables bonus et avantages que vous avez sur Patreon, comme par exemple l'absence de pub ou l'addition des after-shows ou des épisodes spéciaux. Alors aujourd'hui, il n'y aura peut-être pas d'after-show parce que je dois aller soulager ma femme avec les enfants, mais il y en a généralement où on approfondit certains sujets, où on parle de choses qui nous intéresse. Et puis, donc, comme je le disais, l'absence de pub, l'accès au Discord étendu, etc., etc. patreon.com/rdvtech et la newsletter, vous pouvez la retrouver en vous abonnant sur patreon.com. Non, pas Patreon, pardon. La newsletter, c'est notepatrick.com. Il y a un champ pour la newsletter et vous avez aussi le lien vers le Discord là-bas. Vraiment, le Discord, c'est l'endroit le plus sympa d'Internet. Si vous en avez marre de Twitter ou de Facebook, vraiment, venez nous rejoindre sur Discord. Je pense que vous trouverez une communauté qui vous plaira beaucoup plus que ce qu'on peut trouver sur le reste du net. Je vous remercie en tout cas d'avoir été avec nous. Si vous êtes encore en vacances, profitez bien. Si vous ne l'êtes plus, eh bien, ne vous inquiétez pas. On sera là dans vos oreilles dans les jours à venir pour le rendez-vous jeu, par exemple, et la semaine prochaine pour le rendez-vous tech. Et puis, bah, je vous fais de grosses bises. Merci d'avoir été avec moi et à la prochaine. Ciao, ciao. Oula, le jingle. Attends, je le refais. Ciao, ciao. C'était encore un petit peu trop tôt. Non, un petit peu trop tard, je veux dire. Bon, bref, au revoir à tous.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.